La guerre en Ukraine, avec là aussi l'image du soir, le défi de Zelensky au Russe Volodymyr Zelensky en visite aujourd'hui dans le Donbass, terre censée être annexée et contrôlée par les Russes. On voit ces images, Elsa Vidal, comment on dit pied de nez en russe ou plutôt en ukrainien? C'est ce qu'il fait là ce soir, enfin, aujourd'hui Zelensky.
Je pense qu'on qualifierait ça tout simplement de provocation, provocats. Et effectivement, c'est vraiment un prêté pour un rendu. Vladimir Poutine est allé au volant d'une Mercedes sur le pont de Kerch restauré. Et Volodymyr Zelensky montre que rien n'est impossible et que l'Ukraine entend bien reconquérir le Donbass.
Bonsoir Xavier Tittelmann.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Zelensky dit ce soir aux Russes et à tout le monde, je suis chez moi aussi dans le Donbass.
Il est chez lui dans le Donbass, c'est factuel, c'est un territoire ukrainien qui est reconnu comme ukrainien par la communauté internationale. Maintenant, c'est plus le fait qu'il ose, d'un point de vue sécurité, se rendre dans une zone qui est aussi sensible. A priori, il est hors de portée des canons, mais quand on arrive dans la région de Bakhmout, c'est vrai qu'on a toujours des canons russes, des missiles qui sont un peu plus longue portée, donc il prend réellement un risque, mais il l'assume, et je pense que c'est aussi un message politique qu'il envoie à tout le monde.
Là, il était à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout. Vous disiez, à l'instant, qu'il y a un sujet de sécurité. On l'a vu, et il l'a fait notamment à Kherson déjà, à aller à Kherson juste après la libération de Kherson, pour dire, là aussi, je suis, c'est moi. Il veut prendre des risques, là où on disait hier de Poutine qu'il allait dans un terrain facile, très sécurisé, en l'occurrence le pont de Kerch.
Mais Zelensky le fait depuis le début. Avant ça, il a été à Lysychansk à l'époque où il y avait les contre-offensives ukrainiennes autour de Severodonetsk, qui sont aujourd'hui à portée de tir et donc bientôt libérées. Donc c'est une habitude pour lui. Et évidemment, je pense que c'est pour ça aussi que Poutine est obligé de montrer qu'il n'est pas simplement enterré dans son bunker, mais toutes les mises en scène, quand il rencontre des femmes de les fausses veuves, les fausses mères de soldats qui seraient morts au combat, quand il va sur le terrain, c'est jamais une mise en danger, ne serait-ce qu'entre ses échanges avec son peuple, et puis quand il se déplace, où il prend absolument aucun risque, évidemment.
Mais alors on va l'entendre, Volodymyr Zelensky, parce qu'il va encore plus loin. Il était dans le Donbass donc aujourd'hui, mais c'était pour la journée des forces armées. Mais il dit que l'an prochain, cette journée, c'est en Crimée qu'il veut la célébrer. Écoutez.
Vous avez résolument et de manière désintéressée ouvert cette voie difficile en libérant le centre, le nord, le sud et l'est de notre pays, en libérant nos belles villes, Irpin, Borodyanka, Boutcha, Bakhmout, Izium, Balaklia, Kherson, Kharkiv et la place de la liberté, Kramatorsk et la place de la paix. Et bien sûr, le chemin vers la place de l'indépendance et notre volonté passe par Donetsk, Lugansk et la Crimée libre.
La Crimée libre, Elsa Vidal, il le rappelle là aussi à la communauté internationale. Mon objectif, c'est
d'abord,
la Crimée.
Je pense que c'est d'abord à la communauté internationale, aux États-Unis, à la France. Il entend faire savoir que même si pour le moment l'offensive militaire n'est pas possible ou si elle a été repoussée ou en attente soit de validation, soit d'être rendu tout simplement possible matériellement, que la Crimée figure sur la carte de l'Ukraine, que l'Ukraine veut revenir dans ses frontières de 1991, pas dans les frontières de 2014, ni même dans celles de... ni même dans d'autres. Disons que l'Ukraine veut récupérer la totalité de ses territoires, qu'il n'y a pas de ligne rouge pour les Ukrainiens et que la Crimée fait partie de la totalité de ce territoire. Il y a la possibilité militaire, il y a la possibilité diplomatique. On peut tout en fait envisager que la Crimée soit discutée dans le cadre de négociations avec un cordon de je vois qu'on doute en face, un cordon de troupes de l'ONU qui permettrait le maintien de la paix et un référendum après pas mal d'années. Donc on dit beaucoup, il se murmure beaucoup que ce serait une ligne rouge pour la Russie. Moi je demande à voir parce que cette ligne rouge, visiblement, elle n'a gêné personne pendant des décennies. Voilà. Donc les Ukrainiens essayent de pousser leur avantage face à des diplomates occidentaux qui pour eux y voient sans doute une difficulté à faire admettre cela aux Russes.
On doute en face. Ouais, oui, vous en face.
Moi ce qui me frappe, c'est d'abord qu'on voit un chef de guerre vraiment au milieu de ses hommes. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même assez frappant de voir à chaque fois qu'il est, il n'y a même pas de molosse autour de lui, ou en tout cas ils sont à distance. Il est vraiment au milieu de ses hommes, ça c'est quand même assez frappant par rapport à Poutine qui est soit bunkérisé, soit dans une limousine blindée. Mais on sent bien qu'on est dans un moment de tension diplomatique où les Ukrainiens veulent pousser leur avantage militaire. C'est-à-dire qu'on voit quand même des Ukrainiens qui frappent en Russie, qui plantent le drapeau de l'autre côté du Dniepr. Donc il y a une volonté d'y aller et je ne pense pas du tout que ça passe par la négociation et que eux, leur intention, c'est bien de pousser leur avantage et leur offensive militaire. Et d'une certaine façon, est-ce que les Occidentaux auront les moyens de dire publiquement n'allez pas trop vite, freinez donc un peu, on va plutôt négocier. Je ne suis pas sûr, je pense que Zelensky est en position de force et que la dynamique de l'armée ukrainienne peut faire que ça passera pas par les négociations.
Bah, sauf que publiquement, c'est fait.
En tous les cas, ça a été fait. On ne sait pas si ça a été glissé un peu maladroitement ou c'était volontaire, mais Anthony Blinken, oui. Le secrétaire d'État, dans une interview au Wall Street Journal, aujourd'hui, a dit que nous sommes aux côtés des Ukrainiens, nous les aiderons jusqu'au bout, en fait, nous les aiderons à récupérer leur pays dans l'état où il était février. Au début de l'invasion du 24 février. Ça veut dire pas la Crimée dans ce cas-là,
Est-ce un vrai bras de fer ou est-ce une mise en scène pour pouvoir se prémunir contre des accusations russes en disant nous, en tout cas, on ne l'a pas encouragé, nous, on ne participe pas à cette offensive. Ensuite, il y aura les preuves sur le terrain. Si effectivement les troupes ukrainiennes tentent la reprise par la force de la Crimée, encore faut-il y arriver. Et là,
il faut oublier aussi la négociation dans tout ça.
Bien sûr.
C'est logique que Volodymyr Zelensky, il est là, son peuple est en train de se battre pour retrouver son pays. C'est logique qu'ils disent qu'on va retrouver l'ensemble
avec
de
Poutine,
son territoire.
Négocier avec Poutine.
Qui
dirigera la Russie
Vous avez dit, Talman, militairement parlant, la Crimée, c'est un énorme morceau à avaler pour Volodymyr Zelensky?
Oui, c'est compliqué, évidemment, mais chaque mètre carré est difficile. Après, l'avantage qu'a réussi à prendre l'Ukraine depuis maintenant 3 mois, elle a réussi à reprendre plus de 20 000 km² en 3 mois, donc c'est quand même absolument gigantesque. Si on continue à fournir du matériel à la vitesse actuelle, et c'est prévu, les États-Unis viennent de rajouter encore 20 milliards de dollars pour continuer au moins au rythme actuel jusqu'en mars prochain, donc on sait que ça va continuer à arriver. On sait que l'avantage en combat qui a été observé pour l'Ukraine, il est toujours présent. Il ne fait que se renforcer puisque la Russie a du mal à renouveler son plan, son matériel, et les hommes qui arrivent sont mal formés et sont presque pas équipés, alors que du côté ukrainien, ils sortent des écoles. Donc logiquement, le différentiel qui était déjà en faveur de l'Ukraine va continuer à s'accroître. Là, simplement, il y a une pause qui est plus liée à la météo, c'est le fait que cette boue empêche des avancées de chars qui sont relativement larges. Donc, s'il faudrait avancer maintenant, ce serait sur des routes qui sont logiquement minées. Et c'est pour ça que pendant encore quelques semaines, il n'y aura pas de grand mouvement. Mais a priori, on commence à avoir des bombardements dans la profondeur qui commencent à se faire au nord de Donetsk et également dans le sud vers Mélitopol, qui sont les préalables habituels à une grande offensive qui pourra arriver peut-être dans le courant du mois de janvier.
Xavier Tittelmann, on disait à l'instant que Volodymyr Zelensky poussait son avantage sur le terrain, symboliquement également avec ses images. Et puis, il y a ces frappes de drones qui touchent la Russie. Une troisième frappe aujourd'hui du côté de Koursk. On est à 80 km de la frontière avec cette base militaire dans laquelle visiblement une réserve de pétrole a été touchée. Et je le répète, on le disait hier soir, les Ukrainiens ne revendiquent pas ces attaques. Mais à quoi servent-elles ces frappes-là?
Déjà montrer qu'ils en sont capables. À la limite, taper sur les dépôts pétroliers, c'est vrai que ça attaque toujours la logistique qui, on le sait, a beaucoup de difficultés. Koursk, c'est pas réellement nouveau puisque les Ukrainiens avaient été jusqu'à Bryansk avec les drones Bayraktar TB2. Ils avaient été également dans l'est vers Rostov. Ils avaient réussi à bombarder avec des missiles soviétiques au début de la guerre, également avec des drones chinois à 10 000 dollars qu'ils avaient transformés en drones suicides. Donc ça, c'est assez fréquent. Par contre, aller imposer aux Russes de déplacer leurs bombardiers stratégiques, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Crimée il y a quelques mois. Quand ils ont commencé à attaquer la Crimée à partir du mois de juillet, on ne savait pas exactement de quelle manière à l'époque, ça a imposé aux Russes de faire reculer leurs Sukhoi 35, qui sont les avions de dernière génération, les plus modernes dont ils disposent. Et je pense que de la même manière, ils veulent imposer aux Russes de reculer avec leurs bombardiers stratégiques, parce que c'est ça qui aujourd'hui tape sur les civils ukrainiens. Donc l'objectif, c'est un message très clair. On est capable, si on tape à cet endroit-là, on peut aller plus loin, on pourrait même aller sur Moscou. Mais également, pour protéger sa population, ça va considérablement compliquer les futures volontés russes de bombarder tout simplement l'Ukraine et les civils.
Elsa Vidal, Washington, ce soir, dit, je cite, « ne pas encourager ces frappes sur la Russie ». Là aussi, il y a une petite prise de distance.
Il y a une prise de distance où il y a aussi potentiellement une posture de je me dissocie de cette action parce qu'on pourrait dans ce cas-là me porter grief, peut-être me menacer d'être co-belligérant, d'aller au-delà de ce qu'il est attendu d'un simple allié. Et puis ça ouvre plein de portes diplomatiques, ça permet effectivement de garder la relation diplomatique fonctionnelle avec les Russes, de pas l'envenimer davantage.
Bon. Et puis, c'est la position américaine depuis le début. Oui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas livré d'avions de chasse, qu'ils auraient modifié les HIMARS qu'ils ont donnés aux Ukrainiens pour ne pas que ce soit des missiles longue portée. Donc ça, c'est vraiment effectivement une ligne rouge qu'ils se sont pour l'instant mises à eux-mêmes de ne pas donner l'impression d'être en guerre contre la Russie.
Je remercie Xavier Tittelmann d'avoir été en direct avec nous. Je vous rappelle que tout à l'heure, 22h45, le porte-parole de l'ambassade de Russie, Alexander Makogonov, sera notre invité en direct sur BFM TV.